Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous poursuivons notre parcours de la saga d'Abraham commencée la semaine dernière en relisant aujourd'hui l'épisode qui a sans doute suscité le plus de commentaires et d'interprétations depuis des siècles. Plusieurs titres lui ont été donnés. Le sacrifice d'Isaac, le sacrifice d'Abraham dans la Bible de Jérusalem, Abraham est prêt à sacrifier Isaac dans la Tobe, la mise à l'épreuve d'Abraham dans la Bible second. Beaucoup le considèrent comme l'un des sommets de la Bible et même un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Nous le relisons dans la Bible de Jérusalem au chapitre 22 de la Genèse, versets 1 à 19. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pour voix, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne Yahvé pour voix. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit : Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée. Ce récit dramatique suscite généralement des réactions contrastées chez les lecteurs. Certains sont scandalisés. Quel est ce père indigne qui est prêt à égorger son fils? Quel est ce Dieu qui demande à Abraham de commettre un infanticide? D'autres tentent d'édulcorer le texte en valorisant l'heureux dénouement. De nombreuses pistes de lecture sont possibles pour tenter de le décrypter. Père Alain, que sait-on de l'origine et de l'auteur de ce texte? A-t-il des fondements historiques ou doit-on le considérer comme un récit à caractère mythique et symbolique?
C'est toujours difficile de s'interroger sur l'origine des textes. Ce texte, il est surtout un des plus grands textes, on pourrait dire, de la littérature tout court. C'est une production géniale, on pourrait dire, littérairement parlant, et sa postérité a été tellement grande que on est obligé de dépasser la dimension historique. C'est un récit qui s'est construit dans la durée, dans le temps, et qui a intégré beaucoup d'éléments, mais tel qu'il est, au fond, il a une structure, une logique, une cohérence narrative extraordinaire qui permet qu'on peut le commenter, et on le commentera, on pourrait dire, jusqu'à la fin des temps, avec parfois, comme vous dites, des gens qui ont été très opposés à ce texte parce qu'ils laissent entendre qu'on peut tuer son enfant, que Dieu peut le demander, et puis d'autres textes, d'autres lecteurs qui l'ont interprété de manière différente.
Alors, comment peut-on situer cette épreuve du sacrifice dans le parcours d'Abraham que vous nous aviez rappelé la semaine dernière? La tradition juive y voit la dernière épreuve d'une longue série de 10. Beaucoup d'exégètes chrétiens y voient le sommet du cycle d'Abraham, son climax, comme ils disent. Qu'en pensez-vous, Père Alain?
Je crois qu'il faut s'arrêter au mot de la première ligne. Il arriva que Dieu éprouva Abraham. Éprouver, c'est une manière d'adoucir un peu la violence du texte qui va être développé. On nous dit c'est une épreuve. Donc, en soulignant que c'est une épreuve, on donne déjà le contenu et la signification de ce grand récit avec tout ce qu'il peut avoir de tragique par ailleurs. Il éprouva Abraham. C'est le mot tentation, le mot éprouver que nous avons ici, c'est le même mot en hébreu qu'on retrouve souvent dans le moment du désert, par exemple, où Dieu éprouve son peuple, le peuple éprouve Dieu, éprouvé. Lorsque Jésus est tenté, il est éprouvé. Et quand on dit le Notre Père, on vient d'avoir beaucoup d'actualité autour du changement de la traduction de Notre Père, c'est tenté, c'est éprouvé, c'est le même mot. C'est une mise à l'épreuve. Et ce qui accentue peut-être encore cette épreuve, et les commentateurs juifs, ils sont beaucoup plus sensibles que nous parce qu'ils aiment bien prolonger le texte. Par exemple, quand ils lisent le texte, certains disent « Dieu dit, prends ton fils, mais j'en ai deux. Ton unique, mais j'ai deux enfants. Celui que tu chéris, mais je les chéris tous les deux. » Et ça, c'est une manière, si vous voulez, évidemment, de faire un suspense, parce que en rajoutant ces choses-là, on comprend qu'il y a le premier, il est né avant, bien sûr, et ce deuxième fils, Abraham ne l'oublie pas, et donc il laisse entendre qu'il les aime tous les deux. Et là, quand Dieu lui dit « prends », là il obéit. Abraham, c'est l'homme qui obéit. Alors il faudra bien sûr rendre compte de cette obéissance. Est-ce que c'est une obéissance aveugle? Est-ce que c'est une violence comme on en trouve dans l'Antiquité, peut-être encore aujourd'hui?
Une forme de soumission?
Vous savez, Agamemnon sacrifie Iphigénie. Donc ça veut dire que l'idée de sacrifier un enfant était assez classique dans le monde ancien. Que pour plaire aux dieux, il fallait faire des sacrifices d'enfants. Il a fallu attendre pratiquement jusqu'aux années 620, dans la tradition biblique, il y a eu encore des rois qui ont sacrifié leurs enfants. Donc c'est dire que c'est une pratique qui était dans l'air du temps, et peut-être qu'une des fonctions de ce récit, on verra en allant plus loin, c'est peut-être de raconter la fin de ce cycle-là, d'une certaine façon. Un moment mutant, on pourrait dire, dans l'expérience de Dieu avec l'homme.
Alors le fait que la tradition juive évoque 10 épreuves et que c'est la dernière, il y a une espèce de crescendo là, non ?
C'est vrai. Alors ils ont découpé toutes les séquences au fond où Abraham a subi des épreuves. Et ça, c'est celle au-delà de laquelle on ne peut pas aller. On ne peut pas aller plus loin que de demander...
On ne peut pas faire pire dans l'horrible.
À la fois dans l'horrible, mais si on a un regard de foi, on reviendra peut-être après sur l'horrible. Arrêtons-nous une seconde sur ce plan-là. Est-ce que vous êtes quelquefois posé la question, comment se fait-il que Abraham, lorsque Dieu lui demande, lui promet quelque chose, il lui dit « je vais te donner une récompense ». Vous savez, c'est un peu plus haut, quand il revient d'avoir été libéré son neveu. Il dit « je vais te donner de l'argent ». Et Abraham, il ose dire à Dieu « ça ne m'intéresse pas ». Et au moment où il est question de Sodome, et Abraham négocie avec Dieu, mais s'il n'y en a que 50, juste, s'il y en a que 40, il négocie. Comment expliquer que dans ces deux cas, Abraham négocie avec Dieu, et qu'au moment où on lui demande son fils, il ne négocie pas.
Et mais il ne dit rien en plus.
Il le prend. Et ils vont, vous avez remarqué, peut-être le reprendre après, à deux fois dans le texte, parce que les mots sont importants, dans l'hébreu est une langue très, 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 comment dire, très sensible, on dit deux fois, et ils allaient tous deux ensemble. Vous avez remarqué ?
Deux fois, oui.
Par deux fois. Et les commentateurs juifs ne sont pas passés à côté de ça. Cette idée, ils allaient tous deux ensemble, a ouvert un peu un chemin selon lequel, dans la tradition juive, Abraham et Isaac étaient consentants tous les deux sur la voie du sacrifice. Et ce fait d'aller ensemble signifie peut-être quelque chose aussi du côté d'Isaac. Je ne sais pas si vous savez que le nom de ce texte dans la tradition juive est un nom assez connu. Ça s'appelle en hébreu l'Akeda. Et Akad en hébreu, c'est le verbe attacher. On pourrait traduire en français la ligature. Mmh. Et au moment où Abraham attache, c'est ça le lien, c'est un texte fort, attache Isaac pour le sacrifice, la tradition juive, alors on peut trouver que c'est un peu horrible, mais la tradition juive dit, Isaac lui dit, attache-moi bien pour que je ne bouge pas quand tu feras le sacrifice, parce que dans la tradition juive, si l'animal bougeait au moment du sacrifice, le sacrifice n'était pas valide. Donc ce consentement d'Isaac avec Abraham, bien sûr, ouvre des grandes brèches, à la fois du côté juif, mais du côté chrétien, puisque on verra là aussi, les pères de l'Église, la figure d'Abraham, Isaac, Jésus, en union avec son père, allant tous deux ensemble vers le sacrifice.
Alors c'est vrai que l'attitude d'Isaac est quand même troublante, parce qu'il ne dit rien du tout. Enfin, il demande simplement où est le bélier pour le sacrifice. C'est tout. Alors, on peut se poser la question, on ne sait pas quel âge il a. Il est peut-être très jeune, il est peut-être complètement innocent, peut-être ingénu, et il ne se rend peut-être pas compte de ce qui va se passer. Ou alors, peut-être qu'il a déjà un peu l'intuition de ce qui va se passer quand même.
Il y a un trait dominant d'Isaac qui va traverser toute l'histoire. Abraham, c'est le silencieux. Abraham ne parle pas. Et si on regarde bien dans les conflits qu'il y aura avec, quand il aura son enfant avec Rebecca, c'est Rebecca qui sera la maîtresse un peu, sa femme, plus que lui. Il est touché par le silence. C'est-à-dire comme si, alors là aussi, la tradition juive dit que quand il a été sacrifié, il était sur le dos. Et il avait, Leonard Cohen, qu'on a entendu et qu'on entendra, le reprend dans son chant, il avait les yeux fixés vers le ciel. Et la tradition dit qu'il a été brûlé dans ses yeux, qu'il est devenu aveugle, puisque vous savez que la tradition juive raconte qu'Isaac a été aveuglé à tel point que Ésaü et Jacob vont tromper le père parce qu'il était aveugle, et Jacob va se faire passer par Ésaü, justement parce que son père était devenu aveugle. Et la tradition juive dit qu'il est devenu aveugle au moment où il a eu la rencontre sur la montagne.
Finalement, Isaac, il est aussi taiseux que son père.
Oui, c'est, ce qui parle, c'est plus le récit. Le récit est éloquent. Ce n'est pas quand on parle beaucoup qu'on dit beaucoup de choses. À travers la rigueur du récit, il y a une beauté de cette fidélité que la tradition juive va mettre en valeur et chrétienne. Bien sûr, le monde, le temps des Lumières, si vous voulez, va buter sur ce texte-là. Ça sera vraiment les grands philosophes, par exemple, vont résister. Ce texte n'est pas supportable parce que il laisse entendre que l'homme peut tuer son enfant au nom de Dieu. Donc, il y aura un retournement de la lecture. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des lectures un peu contradictoires entre les chrétiens et les juifs qui lui trouvent une dimension spirituelle. Et puis, les hommes des Lumières qui disent que ça, c'est le trop qu'il ne faut pas dépasser ni même rejoindre parce que c'est une attitude qui n'est pas respectable. Mmh. Et la tradition juive, on peut peut-être le dire, va reprendre ce texte au moment de la Shoah. Ce texte va devenir une des références de la Shoah, c'est-à-dire quand tout semble vouloir mourir d'une certaine façon. L'enfant de la promesse, c'est terrible quand même, ce don que Dieu a fait à Abraham, il est en train de le perdre parce que Dieu le lui demande. C'est un peu le massacre de la Shoah lorsque Dieu va laisser son peuple mourir sans venir à son secours, ce qui est une des questions qu'on s'est beaucoup posées après la Shoah. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour sauver la Shoah, comme il n'est pas intervenu pour... Il est intervenu, mais si vous avez bien lu le texte tout à l'heure et vous l'avez bien lu, est-ce que vous avez remarqué que on passe de Elohim à Yahvé? C'est-à-dire, on passe du Dieu de la rigueur au Dieu de la tendresse. Et peut-être que le sacrifice d'Isaac, c'est le temps où on a basculé du côté du Dieu de la violence vers un Dieu de la tendresse, un Dieu de l'amour. Et c'est le Dieu Yahvé. C'est plus le Dieu Elohim. Parce qu'Elohim, c'est la divinité, avec tout ce qu'il y a d'ambigu dans la divinité, la violence que l'on connaît. Et là, le mot l'ange de Yahvé n'apparaît que à la fin du récit, vous l'avez bien remarqué. Le langage est très éloquent d'une certaine façon. Et comme si nous étions devant un moment mutant dans l'histoire d'Israël aussi. C'est-à-dire, c'est la fin des sacrifices humains. Et les sacrifices vont se purifier. On sacrifiera ensuite des animaux. Puis on sacrifiera des sacrifices spirituels. Ça sera l'aboutissement. Et le Christ va être au bout de ce voyage, comme vous le savez.
Mais si j'en reviens à ce face-à-face là, entre Isaac et son père, parce que c'est vraiment très troublant. En plus... les serviteurs sont restés en bas de la montagne. Il n'y a aucun témoin. On est dans un tête-à-tête très intime, finalement.
Oui. Oui, ils sont restés en bas. Et là aussi, la légende juive dit qu'ils ont compris
ce qui allait se passer.
Qui allait se passer, qu'il allait être mis à mort. Et donc, ils se sont mis en route pour revenir. Ils sont allés trouver Sarah pour lui annoncer ce qui était arrivé. Et la tradition juive dit que c'est à ce moment-là que Sarah serait morte, en apprenant que son fils était mort. Alors ça, c'est pas dans le texte, hein, mais c'est pour dire qu'on a beaucoup développé les thématiques. Et la rigueur, j'ai vu que vous le remarquiez vous-même dans votre façon de présenter le texte, vous avez noté qu'au moment du retour, Isaac a disparu à la fin du texte. Vous avez bien vu, si vous regardez la dernière ligne du texte, on dit, si vous pouvez peut-être le relire, ça va peut-être être plus sensible pour les lecteurs. On les fait revenir, mais Isaac n'est plus là. Où est-il passé? Et on est tenté de dire, on est passé de l'unicité à la multitude. C'est-à-dire, c'est parce que tu as obéi que Dieu, à partir de l'un que tu as reçu, te donnera la multitude et le monde entier en récompense.
Alors, vous avez déjà beaucoup anticipé dans vos commentaires. On va en rester là pour aujourd'hui, finalement. On est arrivé au moment où l'irréparable va être commis. Donc le suspense est total. Et puis nous découvrons en temps réel qu'il va nous falloir une troisième émission pour poursuivre la découverte de ce texte. Donc nous sommes au terme de cette deuxième émission consacré à la saga d'Abraham. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.